My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Alors aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, je viens rencontrer Pierre Palinga. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, je suis chez toi, en Ardèche. Merci de m'accueillir. Pierre, tu es le cofondateur du studio Les Trois Becs. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est donc un studio qui réalise des disques de chants d'oiseaux, notamment. Et puis aujourd'hui, tu es un peu plus consacré aux disques pour enfants, toujours avec une volonté de faire découvrir la nature aux enfants. Ce sont des disques livres, donc qui incluent des sons de la nature à travers des histoires et des comptines, etc., qui ont un assez grand succès. Mais tu fais pas que ça, tu es aussi musicien. Et puis avant tout, tu étais un homme de radio, puisque tu as fait une grande carrière à Radio France. Alors moi, ça m'intéresse de savoir que tu nous racontes un petit peu le retour sur ton parcours.
Sur la radio ou...
Comment tu es arrivé à la radio?
À faire ce métier.
Ouais, à
par
faire
hasard.
Ce métier.
En fait, j'ai découvert la radio, j'avais 27 ans. Avant, j'étais chauffeur poids lourd.
Ah oui, effectivement.
Et avant d'être chauffeur poids lourd, j'étais manutentionnaire, magasinier, balayeur d'usine. J'ai fini chauffeur poids lourd et j'aimais bien. J'aimais bien conduire un camion, un gros camion, un beau camion.
Avec ton nom dessus.
Non, moi j'étais employé, mais j'aimais bien conduire mon camion. Et en plus, à l'époque, c'était un métier, je crois, beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas de téléphone portable. Ouais, et il n'y avait pas de puces sur les camions qui font que le patron, rien qu'en ouvrant son ordi, il sait où est le camion, il sait où tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es arrêté, tu es au bistrot, je t'appelle tout de suite. Là, on partait le matin, on était relativement libre, on rentrait le soir. Du moment qu'on avait fait le boulot, on était peinards. Et c'était vraiment sympa, j'aimais bien conduire mon camion. Et un jour, c'était 1981, Mitterrand venait de libérer les ondes, comme on dit.
Et moi, j'entends,
ce qui signifiait que c'était la fin du monopole de Radio France pour ce qui est des radios en France. Et donc tout le monde, plus ou moins, pouvait ouvrir une radio, se lancer dans la radio, ce qui a été le cas. Ça a été la folie d'ailleurs, cette année-là.
L'émergence de toutes les radios associatives,
voilà.
Locales,
ouais,
de
tout
poil.
Et justement, j'entends à la radio, j'écoutais ces radios. Moi, j'ai toujours aimé écouter la radio, même dans mon camion. Et j'entends des gars qui se plaignaient, qui disaient « Ouais, c'est super notre radio, mais on n'est pas assez nombreux. Alors si ça vous intéresse, venez nous voir, on est à telle adresse, etc. » Et j'y vais. Et on discute, et je suis embauché immédiatement, et je commence demain matin. Ouais. Alors, aucune formation, absolument rien.
Sans
mais
transition.
Il se trouve que, bon, pour en finir avec l'histoire du chauffeur poids lourd, je conduisais un camion à la fin, tous les jours, 6 jours sur 7, entre 5h et 7h le matin. C'était un boulot un peu dur pour ça. Et je conduisais le même camion entre 17 et 19 le soir. J'avais deux petites tournées à faire, 5, 7, 17, 19. Mais c'était sûr qu'à 7h du matin, j'avais fini de bosser et j'étais entièrement disponible à 7h. Et tous les gars qui faisaient de la radio à l'époque, c'était tous des joyeux bringueurs quand même. Et donc, ouvrir l'antenne à 7h du matin, c'était quand même un truc impossible pour eux, ou alors ils avaient la tête dans le seau. Et moi, je sortais du boulot à 7h du matin, j'étais en pleine forme, bien réveillé. Et du coup, ils ont dit, tu vas ouvrir l'antenne tous les jours, toi. Et le lendemain matin, j'ouvrais l'antenne... Il m'avait montré comment marchaient les tourne-disques, on était dans le vinyle encore à l'époque, comment on ouvrait le micro, et vas-y, bon. Et voilà, alors c'était sûrement pas brillant, hein. Mais je suis resté 2 ans dans cette radio privée à Valence. Je dis radio privée, on disait libre à l'époque, mais bon.
Radio libre.
Ouais, on disait libre. Et puis, donc au bout de 2 ans, on apprend, presque terrifié, que Radio France va s'installer à Valence. Le diable arrive.
Pourquoi le diable ?
Parce que parce c'était que le fameux monopole. C'est des gros qui ont du fric, qui s'en foutent, etc. Bon, le diable va s'installer à Valence. Et moi, j'avais toujours été un auditeur des stations de Radio France. Et moi, je trouvais que c'était super. Et donc, on apprend cette nouvelle, puis on apprend qu'on peut postuler, qu'on peut essayer d'être embauché dans cette boîte. Et moi, j'y vais, bien sûr. Et je suis embauché immédiatement. Voilà. Et parce que les gars qui étaient à la sélection, qui étaient impressionnants, hein, c'était deux mecs en costard noir, vraiment pas l'air marrant du tout, ils me disent « Bon, qu'est-ce que vous faites, vous, alors ?» Je dis « Je suis chauffeur poids lourd. »« Ah bon ?»« Et vous voulez faire de la radio ?»« Oui. » Et pourquoi ça ? C'est super la radio, j'adore ça, j'ai toujours aimé la radio. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous voulez faire en radio ? Moi, je voudrais faire des émissions sur la nature, parce que ça m'intéresse beaucoup, je suis un peu un passionné de ça. Et le gars me dit, vous allez quand même pas nous faire écouter des chants d'oiseaux. Hein.
S'il avait su.
Alors, j'étais un peu désorienté, un peu déstabilisé, et puis je me dis, bon, le tout pour le tout. Je dis, mais si, bien sûr. C'est très beau, les chants d'oiseaux, c'est super. En plus, c'est très radiophonique. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Et là, les gars, ils ont mis une croix verte devant mon nom. Ils ont dit, ce gars-là, c'est un passionné. Mm-hmm. Et si je m'étais dégonflé, si j'avais dit, oh, bah, finalement, je sais pas, peut-être vous avez raison. Si je m'étais déballonné, ils auraient dit, lui, c'est pas un bon, on n'en veut pas. Ils voulaient des passionnés. Et je me suis retrouvé avec une équipe de passionnés formidables.
Ah ouais.
Mais vraiment des gens formidables. Le rocker était le roi des rockers. Il avait 10 000 disques de rock'n'roll chez lui. Il était passionné et passionnant. Le jazzman, pareil, c'était un collectionneur et c'était un mec formidable. Il avait 10 000 disques de jazz, il amenait ses disques. Le côté naturaliste, ils n'ont pas été déçus parce que bon, je suis assez passionné aussi. C'était une équipe vraiment, vraiment formidable. Et donc, c'était parti. Je suis resté 20 ans à Radio France.
D'accord. Voilà. Donc là, tu étais sur quelle antenne ?
Radio France Drôme.
D'accord.
Et okay. je voulais pas monter dans l'escalier parce que Radio France, c'est une boîte à hiérarchie. Mm-hmm. On commence en bas, animateur. Après, on peut devenir directeur des programmes, responsable des programmes, directeur d'une petite radio, directeur de tout un service, etc.
D'accord.
C'est un escalier, quoi. Mm-hmm. Et moi, j'ai jamais voulu monter l'escalier parce que j'ai toujours pensé que la radio, ça se passe au micro. Et diriger une radio, moi, ça m'aurait ennuyé totalement.
Mmh. Et oui, parce que plus tu montes l'escalier, plus tu t'éloignes du micro en même temps.
Bah, oui, bien sûr. Après, c'est fini, quoi. Mmh. Et autant diriger une fabrique de chaussures.
C'est, oui, tout
voilà,
à fait.
Je dis pas que c'est pas bien de diriger une fabrique de chaussures. Hein.
Mais c'est parce
mais
que
voilà,
tu voulais
moi,
faire.
Je voulais faire de la radio. Et la radio, c'est le micro. Mmh. Et c'est le micro, c'est le reportage, c'est la prise de son, c'est la réalisation. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour de la radio, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu as fait ? C'était quoi ton émission ?
Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah, j'ai tout fait.
tu leur as fait écouter des chants d'oiseaux.
Non, mais ça n'a pas commencé comme ça, c'était dingue. On était très ambitieux. Le premier directeur de cette station était un ancien de France Culture. Et son idée, c'était de faire un petit France Culture en région.
D'accord.
Donc la barre était très haut. Mm-hmm. Et moi, je me retrouve à la littérature régionale d'entrée de jeu. Fallait que je lise à l'antenne des extraits de bouquins qui traitaient de la région, de la Drôme et de l'Ardèche. Donc avant, fallait que je lise tout. Donc j'ai lu tous les livres qu'il y avait sur la Drôme et l'Ardèche. Et je prenais des notes dans mes bouquins et je trouvais de la musique jolie pour mettre en dessous. Et je faisais le lecteur. C'était une petite émission littéraire à l'heure après manger. Je crois que c'était 13h30 ou 14h, une heure tranquille. Et j'ai commencé par ça, c'était vraiment dur. Hein. Mais bon, ça a duré quelques mois. Puis ensuite, j'ai fait toutes les tranches horaires, tout ce qu'on peut faire en radio, je l'ai fait. De l'aube jusqu'à la dernière de la journée, jusqu'à 23h. Beaucoup de reportages, c'est ce que j'aimais beaucoup faire, des reportages. Balader, quoi, aller rencontrer des gens. J'aimais beaucoup ça, ouais. Et puis, j'ai fait le jazz, j'ai fait tout.
Mm-hmm.
J'ai fait toutes les tranches horaires, j'ai fait tout ce qui m'intéressait. J'ai fait beaucoup de nature, évidemment, beaucoup d'interviews de naturalistes, beaucoup de terrain. Et puis, au bout de 20 ans, ils m'ont viré.
Ah ouais ? Comment ça se fait ?
Pour mes 20 ans.
Et ben, beau cadeau.
Pour mes 20 ans de boîte. J'avais fondé la boîte quand même. Mais bon, j'avais plus ma place dans cette boîte. De toute façon, je voulais m'en aller. Disons que je ne veux pas rentrer dans le détail et je ne veux pas dire du mal des gens de Radio France. Mm-hmm. Mais ces radios, pour ce que j'en pense, c'est qu'elles ont vraiment baissé de niveau. C'est qu'au début, on était censé faire un petit France Culture en région. Moi, ça m'allait bien. Après, on avait plutôt l'idée de faire un France Inter en région, c'était pas mal quand même. Et puis après, c'est devenu du sous-RMC, quoi.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est France Bleu.
Ouais.
C'est ça, hein,
ouais.
On est d'accord.
Aujourd'hui
ça
n'existe, oui, ça a changé
plus
de nom.
Radio France.
Oui, oui, quand ils ont changé.
France Bleu.
Et c'est quand ils ont changé de nom que ça a vraiment dégénéré, quoi. Faut dire qu'au début, on avait suivi une super formation au métier de la radio. On avait même étudié la programmation musicale. On avait une semaine de programmation musicale à la maison de la radio. Un rêve.
Ah ouais.
Avec la discothèque de Radio France. Oh là là.
Ah, ils vous avaient mis au niveau, quoi.
Oui,
vous avez des ambitions.
On avait passé des jours et des jours à fabriquer des jolis programmes musicaux. C'est pas le même programme qu'on va mettre à 7h du matin, qu'à 10h du matin, qu'à midi, qu'à 15h, qu'à 22h. Comment alterner les genres, les rythmes, les styles, etc. Comment construire un beau programme musical et comment avoir toute la culture musicale qui est nécessaire quand on fait ce boulot. Donc, c'était génial, ça. Et un jour... Eh ben, les programmes
Excuse-moi,
musicaux,
je
ouais.
te coupe, en oui. tant qu'animateur aussi, du coup, vous participiez à la création des programmes
musicaux.
Ben,
on était programmateur, on était responsable de la programmation de son émission. On était responsable de 100% de ce qu'il y a dans l'émission.
D'accord.
Tout.
Ok.
Et c'était simple, c'était sympa, c'était bien payé, mais il fallait être vraiment très bon. Sinon, on était viré. On était intermittent du spectacle en ce temps-là. Hein. Donc, tous les trois mois.
Ah, vous étiez intermittent du spectacle, c'était ça votre
statut.
Oui,
oui. Et tous les trois mois, on renégociait le statut. Quoi.
Donc là, vous deviez vous décarcasser, ouais, effectivement.
Ben
pour être
non,
à la
mais il fallait être très bon. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Tout le monde s'efforçait à être très bon. C'était une ambiance absolument fabuleuse. On réécoutait toutes les émissions ensemble, on se critiquait les uns les autres positivement, on essayait d'améliorer le modèle en permanence.
Il y avait une vraie émulation.
Ah mais je faisais 70 heures par semaine. C'est de la folie. Et je n'étais pas payé pour faire 70 heures par semaine, hein, mais c'était de la folie furieuse. On bossait jusqu'à 22, 23 heures tous les soirs, on avait les clés de la radio, on était chez nous. Et on inventait, on faisait même des choses pour lesquelles on n'était pas du tout payé. On avait inventé avec les copains un feuilleton radio. Moi j'ai toujours aimé ça, on appelait ça les dramatiques à Radio France. Un feuilleton radio où on faisait bosser tout le personnel. Les standardistes, le régisseur, les journalistes, tout le monde. Ça s'appelait l'Hôtel du Rhône. C'était un truc sordide, il y avait un crime par semaine, un épisode par jour. Et
un épisode par jour,
oui,
c'est
oui,
du
oui,
taf.
Oui,
hein.
Ouais, bah, wow. 3 minutes par jour, mais c'était du taf. Ouais. Et donc on faisait en gros un bon quart d'heure par semaine. Il y avait un crime par semaine. Et moi je crois que j'étais l'inspecteur de police. Et donc il y avait un copain scénariste qui nous écrivait tout ça. Mais tout ça c'était gratos. Il n'y avait rien de payé pour tout ça.
Pour le plaisir.
Ah ouais, mais on s'éclatait beaucoup. Donc ça a été formidable, quoi.
Waouh, ça me fait rêver quand je t'entends parler de tout
ah,
ça.
Ah, mais c'était extraordinaire. Et à propos de liberté, c'est là que je me suis aperçu que la radio libre, c'était Radio France, en fait.
Ah.
Mais ouais.
Parce qu'en plus, vous aviez les moyens.
Ah bah, évidemment.
Non seulement vous étiez libre, mais vous aviez les moyens de faire
voiture,
tout ce que vous voulez.
Tiens, voilà la clé. Tu veux le meilleur enregistreur du monde, le voilà. Tu veux un technicien pour t'accompagner pour la prise de son. Tiens, tu vas partir avec Guy ou avec machin. On était bien payés, on avait tous les véhicules, les enregistreurs, les meilleurs studios, il faut le dire aussi, côté technique, nickel. Des bons professionnels, techniciens, metteurs en ondes, etc. Ouais, c'était formidable. Et puis on pouvait partir toute la journée, tu veux manger au resto, tu veux rester dormir, c'est pas un problème. Défrayé.
À la belle époque.
Mais
arrête,
ouais,
j'ai la larme à l'œil.
Non, mais dans une grosse boîte, c'est comme ça. Mais je veux dire, on était vraiment. Et quant au contenu des émissions, c'était carte blanche. Tu fais ce que tu veux, on te fait confiance, mais il faut que tu sois bon.
Mais il faut que ça assure.
Alors, c'était génial. Mais alors, moi, je bossais encore dans mon lit la nuit. Hein. J'étais en train de penser aux émissions du lendemain, à comment j'allais pouvoir tourner ça. J'avais souvent 3 invités par matinée. Enfin, c'était un boulot hyper passionnant.
Et moi, ce qui me fait rêver encore plus, c'est quand tu parles de cette ambiance, ça avait l'air d'être une super ambiance. Tu parles des
génial.
Collègues en disant les copains.
Non, non, non,
donc,
mais c'était, on était une bande de potes fabuleux, c'était extraordinaire.
Oh, ouais, génial, ouais. Tous motivés par le même projet.
Oui, 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 oui. Ben, on faisait la meilleure radio. D'ailleurs, des gens des radios locales de Radio France venaient nous voir de toute la France. Parce qu'on était une sorte de bête rare dans le réseau.
Ah bon ?
Oui, 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 on était, ils venaient de partout nous voir travailler. Voir l'esprit, comment on faisait pour faire une si bonne radio. On envoyait nos programmes même aux autres radios, les émissions qu'on inventait, les autres voulaient entendre ça. Donc on leur envoyait, on disait, tu vois, nous on fait comme ça, on fait comme ça. Ah ouais, mais comment tu fais ? Ah ben oui, mais on compte pas nos heures, c'est sûr, on était tous des passionnés fous, quoi. Et c'est une époque vraiment, vraiment fabuleuse. Et du coup, j'en ai quand même profité pour apprendre pas mal de choses sur les métiers de la radio, sur la réalisation, la prise de son, etc. Bon, après, ils m'ont foutu dehors, oui... Mais de toute façon, je voulais partir, c'était fini, quoi. J'avais fait mon temps, j'avais fait tout ce que j'avais à faire.
Donc au bout de 20 ans.
Oui, justement, j'avais commencé à dire tout à l'heure qu'on avait appris la programmation musicale, et à un moment, les conducteurs, le conducteur, c'est le papier sur lequel il y a tout le déroulement de l'émission, hein, les conducteurs sont sortis d'un ordi à tout imprimer, et c'était un gars à Paris qui faisait les conducteurs de disques pour toutes les radios locales. Ça fait qu'à Drôme, comme dans le Gard, comme en Bretagne, on passait les mêmes disques à la même heure, et
D'accord.
on était dépossédés de la programmation musicale.
Vive la centralisation.
Voilà, ça coûtait moins cher, c'était plus simple, et puis comme ça, on est sûr qu'ils passeront la musique que Radio France veut qu'il soit passé, enfin veut qu'il passe dans les radios locales. Et du coup, moi, je faisais toujours des émissions à thème. J'étais un bavard et je faisais des émissions où, en gros, on parlait la moitié du temps. Bon, pour Radio France, c'était pas mal. Sur 2 heures, il y avait 1 heure de parlotte quand même. Fallait quand même y aller, au moins. Et d'un coup, il a fallu parler moins et passer des disques, n'importe lesquels. C'était imprimé, fallait passer ça. Alors,
C'est-à-dire imposer, pas n'importe lesquels justement, pas
oui,
ceux que tu
ben,
voulais, ceux qu'on t'imposait, quoi.
voilà, fallait passer ces disques imposés qui étaient souvent très mauvais.
Ouais.
Et moi, en plus, je faisais des émissions écolo à l'époque où c'est passé, et je devais passer des chansons vraiment cons, la honte de la radio, quoi. Alors, je les passais pas. Je les trouvais pas, les disques.
Ok.
Et je les ai pas trouvés pendant 1 an ou 2, quand même. Et à chaque fois que je finissais mon émission, tout le monde disait « Ouais, bravo Pierre, c'est super ce matin. » Les gens téléphonaient « Bravo Pierre, on aime vous écouter, tout ça. » Ouais, bon, c'était sympa, on avait beaucoup de succès en fait, hein. Et il y avait en même temps le responsable des programmes qui m'appelait juste après l'émission « Salut Pierre, ouais, très bien ton émission ce matin. Hein.
Par
Mais j'ai pas
contre,
du tout reconnu le conducteur. » Ah oui, mais tu sais, j'ai pas trouvé les disques. Hein. Alors bon, je me suis foutu d'eux pendant 1 an ou 2, quoi. Et puis bah, ça devait s'arrêter de toute façon.
Tu sentais que ça commençait à
Voilà, et
être
puis j'avais plein de
sous
choses à
tension.
faire. En même temps, bon, j'ai toujours été un peu passionné par plein de choses. Donc en même temps que je faisais animateur de radio, je faisais musicien professionnel. C'est-à-dire que je faisais des concerts le soir dans différents groupes de tout style de musique. Et j'écrivais des bouquins. Je faisais du régionalisme. Donc j'ai
C'est-à-dire...
bouquins sur la Drôme, essentiellement.
D'accord.
J'ai écrit la Bible de la Drôme, ça m'a pris 7 ans. Avec un bon article sur chaque commune du département, il y a 360 communes, 360 articles, super détaillés. J'ai passé 7 ans à bosser. Je suis devenu un rat d'archives, à gratter aux archives, quoi. Et donc, ça me plaisait beaucoup d'écrire. Et puis, j'aimais bien le côté l'érudition que ça demandait, parce que c'était là, je faisais un bouquin qui touchait vraiment à tout, depuis la géologie jusqu'aux hommes préhistoriques, en passant par jusqu'à aujourd'hui. En passant par la botanique, la faune, la flore, n'importe quoi, tout.
D'accord, c'était pas destiné aux touristes
Ah non, pas du tout,
spécialement.
pas du tout.
Non,
Ça s'appelle La Drôme Insolite, d'ailleurs, il existe encore ce bouquin, il marche toujours. Mais voilà, j'aimais ça. Donc je faisais des livres, j'étais animateur de radio et j'étais musicien professionnel. Ça faisait déjà un bon emploi du temps.
ouais, j'imagine que tu devais pas dormir
Et
beaucoup
donc,
la nuit.
oui, c'est ça, mais pour arrêter que la radio s'arrête, ça me gênait pas beaucoup, en fait. J'avais plein d'autres trucs à faire.
D'accord.
Voilà. Et du coup. J'ai encore répondu à une petite annonce vers la fin de la radio. Dans un journal écolo, je vois une annonce. En gros, c'était les éditions Citel. Les éditions Citel, je connaissais parce que c'était le plus gros éditeur de disques de nature en Europe. Les éditions Citel cherchent collaborateurs pour expédition, etc. Moi, je vois ça, je me dis, c'est pour moi ça. Expédition, ça fait rêver ça.
Tu te revoyais au volant de
Moi,
ton
je
camion?
me voyais surtout en Amazonie à courir après des perroquets ou
Ah,
voilà, c'est pour moi.
expédition
Eh ben
lointaine,
oui, voilà.
ouais,
Et donc je me
pas
dis,
livraison de
ça,
disque.
c'est pour moi.
Ah ouais.
Donc je réponds, j'y vais, je suis embauché immédiatement, mais voilà, comme d'habitude, je dirais. Sauf qu'il n'y avait pas d'expédition. Le patron, il avait fait une annonce un peu mensongère.
Ah ouais.
Il m'a dit, bon, non, expédition, ça veut dire que si tu pars en voyage, je te prête du matériel. Donc ça n'avait rien à voir. Mais j'avais le pied dans la maison et je suis devenu réalisateur de disques animaliers. Parce que le gars était un bon preneur de son, mais il était mauvais réalisateur. Et moi, j'avais déjà 15 ans de Radio France, je commençais à savoir comment on fait une belle réalisation. Donc j'ai été embauché immédiatement. Lui, il a vu un gars de Radio France, 15 ans de boîte, et a dit, putain, c'est pour moi, ça, voilà. Donc je suis devenu réalisateur, j'ai dû faire 25 disques chez eux. Jusqu'à ce que j'en ai marre de bosser pour les autres. Bah on arrive il y a une dizaine d'années où là j'ai monté cette maison d'édition. Parce que à un moment je voulais faire un beau disque que j'ai fait sur les oiseaux, là, ABC des chants d'oiseaux. Et je voulais faire ça, je dis au patron, voilà, j'ai une idée, je pense qu'elle est intéressante, on pourrait faire ça. Et c'est un boîtage carton. Curieusement, le carton aujourd'hui est bien plus cher que le plastique. Et le gars, il me dit, non, non, tu vas nous ruiner, c'est beaucoup trop cher ton truc, t'es fou, ça marchera
donc on va,
jamais.
On va détailler un petit peu ce que c'est l'idée, parce qu'aujourd'hui, si il existe. Donc, c'est l'ABC des chants d'oiseaux. C'est un livret avec deux CD qui permet de découvrir et d'apprendre le chant des oiseaux. Donc, comme tu m'expliquais, c'est accompagné aussi d'un livret détaillé avec des illustrations, un petit article que tu as fait sur chaque oiseau, où tu me disais notamment que tu répertoriais les chants avec des onomatopées pour apprendre à les reconnaître. Ou des petites anecdotes pour apprendre à les reconnaître. Le loriot, il siffle. Il siffle les filles.
Ça, c'est un loriot. Oui, c'est vrai.
Etc., etc. Plein de petites anecdotes pour apprendre à reconnaître les oiseaux.
Oui, c'est une méthode. Hein. Vraiment,
c'est... Et la méthode, elle est assez sympathique. Enfin, moi, je la trouve assez sympathique. Un CD dans lequel on te suit en balade et où tu nous expliques là, on entend tel oiseau, etc., etc. Tout ça à travers différentes pistes
C'est comme
audio.
Si on allait se balader ensemble, tout simplement, un jour de printemps.
Un coup en campagne, un coup en forêt, un coup à la ville, un coup, etc., etc. Et un deuxième CD où là, on n'a plus le guide et on peut se contenter d'écouter les oiseaux et de voir si on a bien retenu et si on peut les reconnaître.
Débrouillez-vous le deuxième parce qu'il n'est plus là, le gars qui sait tout. Donc voilà, je voulais faire ça, j'avais cette idée. C'était une bonne idée. D'ailleurs, ce disque fonctionne très bien. Enfin, il a beaucoup de succès. Et le patron me dit, t'es fou, ça ne marchera jamais. Ça, c'est un mauvais plan. J'ai dit, bon, ok, je vais me ruiner tout seul puisque tu ne veux pas. Et c'est là que j'ai monté la petite boîte, le studio Les Trois Becs.
Voilà,
et ce disque, donc, ça a été le premier disque que j'ai fait. Il a tout de suite eu un grand succès. Et pour l'anecdote, c'était drôle parce que je l'envoie à mon ancien patron, donc, Jean Rocher, un type remarquable, formidable, hein, côté chant d'oiseau, un mec formidable. Et je lui envoie en lui disant, bah, tu vois, je l'ai fait. Et puis il m'appelle un jour, il me dit, bon, il fait pas beau, je sais pas quoi, je reste à la maison, je vais écouter ton disque. Je dis, ouais, bonne idée. Et il me dit, je te rappelle après. Je dis, très bien. Alors, une heure après, le téléphone sonne, c'était mon Jean Rocher qui m'appelle. Ses premiers mots, c'était « salaud ».« Salaud, qu'est-ce que c'est bien ton truc ?»« Merde, quand je pense que j'ai pas eu l'idée, ça fait 50 ans que je fais des disques d'oiseaux. » Ah, alors bon, il a dit plein de gros mots que je vous répète pas, mais il était écœuré. En fait, il avait pas compris l'idée, comme je lui avais expliqué, et l'ayant dans les mains et écoutant, il dit « Merde, quand je pense que j'ai pas eu l'idée de faire ça. » Alors, voilà, mais bon, bah, c'était bien parti, ce disque a marché, puis après, on a enchaîné, quoi.
Voilà, depuis une dizaine d'années, toi et ton épouse Sylvie Garin, vous vous consacrez quasi exclusivement à ça. Bon, pas exclusivement, parce qu'on a bien compris que t'avais plusieurs casquettes et plusieurs passions dans la vie.
Bah, disons qu'on est dans l'édition. Voilà, ça, c'est ce qui regroupe tout le reste, parce que comme je suis musicien, quand je fais de la musique, elle est aussi sur disque, et donc je suis en même temps l'éditeur, le musicien, l'auteur, mais c'est d'abord une maison d'édition.
D'accord, vous continuez à éditer des livres aussi ?
Non, alors nous on fait du livre-disque.
D'accord, donc c'est maison d'édition sonore.
Oui.
Ok. Alors, aujourd'hui, il y a quand même un joli petit catalogue.
Oui, ça commence.
Ouais, avec donc des méthodes pour apprendre les chants d'oiseaux, des méthodes pour apprendre les cris et les bruits de la nature et des différents animaux.
Oui, mammifères, batraciens, insectes, tout ce qui fait du bruit. La prise de son animalière, ça devient une maladie après. Hein. On enregistre tout. Alors, je me suis même équipé d'hydrophones, c'est des micros qu'on jette dans l'eau, pour enregistrer sous l'eau. Après, on devient moitié dingue, hein, la prise de son. Alors, après, j'enregistre au fond des mares, au fond des rivières, mais il y a beaucoup de bruit là-dedans, c'est très, très passionnant. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas qui on enregistre parce qu'on ne voit pas dans l'eau.
Il faudrait mettre aussi un masque et un tuba.
Donc, en tout cas, c'est passionnant. Puis après, on enregistre tout et n'importe quoi.
Bon, alors, on a compris que cette passion pour la nature, tu l'avais avant même de commencer la radio.
Je l'avais tout petit, oui.
Depuis tout petit. Tu peux nous raconter un des premiers souvenirs
J'ai appris à siffler avec le merle noir dans mon jardin. Merle noir est un très bon siffleur, très bon chanteur, et en plus il chante par petites strophes. Et il s'arrête, et il refait une autre strophe. Alors il chante par exemple 4 secondes, et puis il s'arrête 4 secondes pour écouter les autres oiseaux, et il rechante. Et pendant ce temps-là, moi je l'imitais, exactement. Alors j'apprenais à siffler. Et lui, en fait, c'est longtemps après que j'ai appris que quand on imite un oiseau, le chant d'un oiseau, ça l'énerve. Parce qu'il croit que c'est un concurrent, il croit que c'est un autre, il croit que c'est un rival. Et je ne savais pas que les oiseaux sont territoriaux. Quand il y a un merle là, il est chez lui. Et s'il entend un autre merle, il va le virer, il va être en colère, il va lui courir après, etc. Et, mais alors, n'empêche que moi, j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures à apprendre à siffler.
Et à énerver ce merle.
Ouais, elle l'énervait, ouais, mais c'était mon merle de mon jardin, je l'aimais bien, on était vraiment amis. Et oui, oui, parce que tous les printemps, c'était en banlieue parisienne à l'époque.
Ah, t'as grandi en banlieue parisienne.
Ouais, ouais, dans le 9-3 qu'on dit aujourd'hui.
Ouais, mais c'est là d'où je viens.
Ouais, c'était la campagne à l'époque.
Ah, ouais.
Ah, ouais, ouais, c'était la campagne. Vraiment. Aujourd'hui, c'est la zone, mais autrefois, c'était vraiment joli. Mm-hmm. C'était très champêtre, en fait. Mm-hmm. Moi, en banlieue, j'ai grandi, il y avait un poulailler, on avait un grand jardin, des poules, des lapins, des oies, des canards, un grand potager.
Excellent.
On était à la campagne.
Quelle ville ?
Aulnay-sous-Bois.
D'accord.
Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu.
Enfin, Aulnay-sous-Bois,
ouais. Oui, mais déjà, ça m'énervait un peu, parce qu'à Aulnay-sous-Bois, il n'y avait ni aulne, ni bois. Alors, ça me manquait quand même, hein. Et en fait, je suis parti très jeune m'installer en Ardèche.
D'accord.
J'ai profité d'un grand mouvement de population des années 70, où on était quelques-uns à quitter la grande ville et à tenter de s'installer dans des coins pas chers. Mm-hmm. Et il y avait trois coins pas chers en France. Il y avait, à l'époque, il y avait l'Ardèche, l'Ariège, mm-hmm, et la Creuse. Mm-hmm. Et l'Ardèche, je ne connaissais aucun des trois. J'étais un petit Parisien, enfin un petit banlieusard. Et le premier sur ma route, c'était l'Ardèche. J'ai tourné à droite en descendant la Nationale 7. J'ai vu plein de belles collines, plein de belles forêts. Je me suis dit, mais c'est super ici, c'est magnifique. Et hop, je me suis installé là, quoi.
Et t'as plus bougé. Et t'es devenu un spécialiste de l'Ardèche.
Oui, bah oui, oui. Bah ouais. Enfin, bah, c'est marrant, la vie. C'est plein de rebonds et de choses qu'on n'avait pas pensé faire un jour. Ça, c'est sûr. Ouais.
Et alors, cet amour donc des bruits, de la nature, tu devais pas avoir énormément de temps pour aller te balader quand tu me parles de ton emploi du temps surchargé.
Ouais,
là,
mais,
comment
donc,
tu
au début,
l'as entretenu?
Ouais, bah non, en fait, au début, j'étais donc réalisateur de disques animaliers. Bon, je faisais ça en plus de la radio, bien sûr. Mais je me suis tout de suite équipé d'un bon enregistreur, du micro-parabole qui va bien, enfin du vrai matériel pour la prise de son animalière. Et puis, bah, c'était... de toute façon, j'habitais en pleine brousse. Hein. Moi, j'ai toujours habité dans des coins insensés, en fait. Hein. À l'époque, j'habitais dans une clairière au milieu d'une forêt. On m'appelait l'homme des bois. J'habitais tout seul au milieu d'une clairière dans la forêt. Et donc, mon jardin, c'était la forêt. Et devant moi, il y avait la forêt tout autour de la maison. Donc, même sans faire exprès, il n'y avait qu'à sortir l'enregistreur. J'avais pas besoin d'aller loin. Je l'enregistrais devant ma porte et j'étais content. Et j'ai enregistré ma première fauvette à tête noire, qui est un des oiseaux les plus communs, qui chante bien. Et je ne savais même pas ce que c'était. Aujourd'hui, ça me semble complètement incroyable. Je me disais, oh, il chante bien cet oiseau. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne connaissais rien. J'étais au niveau zéro. Mais j'étais passionné par la prise de son.
D'accord.
Et petit à petit, à force d'enregistrer, de réécouter, j'ai fini par connaître tout le monde.
Et puis, comment tu as connu tout ça? J'imagine que tu as travaillé avec des ornithologues ou simplement en autodidacte?
Moi, je suis autodidacte de tout. Hein.
D'accord, donc il n'y a pas eu une rencontre à un moment donné?
Non, Jean Rocher, simplement, qui était c'est le patriarche de la prise de son animalière. C'est le premier, peut-être au monde, qui a commencé à enregistrer les oiseaux. Mmh. Dans les années 60, avec des nagras qui pesaient 14 kilos, une batterie de bagnole de l'autre côté pour faire tourner l'enregistreur, des aventures de fou. Et c'était une belle rencontre pour moi, oui, parce que j'avais tout de suite le pied dedans. Et puis c'est passionnant, en fait, c'est un truc passionnant. Bon, il y a beaucoup plus de photographes animaliers. Ça, c'est un truc qui étonne personne. Mais preneurs de son animalier, on n'est vraiment pas nombreux. Ça doit se compter sur les doigts d'une main en France, hein, mm-hmm, en professionnel. Et alors que c'est aussi passionnant que les images, hein, mais il faut aimer le son. Et c'est peut-être parce que je suis musicien, aussi depuis enfant, je suis musicien. Donc c'est vrai que j'ai une très bonne oreille, et même encore aujourd'hui, j'ai une très très bonne oreille. En acuité auditive, j'entends des trucs que personne n'entend, quoi. J'entends un petit oiseau à 300 mètres.
On dit que ça se développe aussi.
Oui,
hein.
Ça s'éduque.
Ça se travaille.
L'oreille s'éduque, et plus on travaille avec ses oreilles, et mieux on entend. Plus on écoute, mieux on entend, ouais. Donc voilà, la musique m'a amené au chant d'oiseaux. Ce qui m'a intéressé d'abord dans les chants d'oiseaux, c'est la musicalité, évidemment. Donc, les meilleurs chanteurs. Bon, ceux qui chantent pas bien sont sympas, certes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la mélodie, la musicalité, vraiment. Donc,
alors, c'est qui que tu citerais dans les bestes, le rossignol?
Non, je préfère le merle noir. Ah. Alors, non, mais si on se met à parler d'oiseaux... Il va y en avoir pour un petit moment.
On n'est pas sorti, mais quand même quelques noms, les stars.
Le merle noir. tout simplement. Mais
donc, toujours ton préféré depuis l'enfance, alors.
Bah, bien sûr, c'est le meilleur chanteur en France. La Fauvette à tête noire est aussi un très bon petit chanteur, très bavard, une pipelette, quoi. Ça a beaucoup de choses à raconter, les Fauvettes. Le Rossignol, c'est plus un champion d'endurance. C'est un gars qui est capable de chanter 16 heures par jour. Non mais tu t'imagines, même un humain, on le ferait chanter 16 heures par jour, au bout de 3 jours il est mort. Et avec une intensité, une ardeur absolument exceptionnelle. C'est pas un petit chant.
Combien de temps il vit le Rossignol? Peut-être il vit que 3 jours.
Années, mais... Non mais il est dans une transe. Ouais. Le chant, il est complètement en transe quand il chante. Et alors évidemment, c'est d'abord un champion d'endurance. Ensuite, c'est vrai que c'est un as des nuances. Il chante des quarts de ton très facilement. Je ne sais pas si j'explique ce que c'est qu'un quart de ton.
Non, peut-être pas. Alors, ceux qui connaissent sauront, les autres imaginent.
C'est des nuances très fines en musique. Mm-hmm. Et il chante aussi des neuvièmes de ton qu'on appelle des comas en musique indienne. Le quart de ton, c'est plutôt les musiques orientales. Et il chante aussi, alors là, on n'entend plus rien, nous, parce que nous, on n'est pas très doués en oreille, hein, les humains. Mm-hmm. Il chante des vingtièmes de ton.
D'accord, des choses qu'on ne perçoit pas.
Non, on n'entend pas la différence entre ces notes, mais lui, il est choisi. Ah ouais. On s'est aperçu ça, que lui, il fait la différence entre des notes vraiment d'une finesse incroyable. Et il est formidable. Et puis c'est le seul oiseau, le rossignol, qui chante la nuit.
Oui, tout à fait.
Et il chante des fois dans un silence total.
Ouais, c'est sublime.
Et on sent que là, ouais, c'est sublime. Et puis lui, il est heureux parce que il y a aucun bruit qui vient couvrir son chant.
Lui, il a aucun
Donc,
concurrent.
Donc on l'entend super loin. Si, il a souvent un concurrent à 2 km. Et ils se répondent. Mais on l'entend parfaitement puisqu'il n'y a aucun autre oiseau qui chante. Par contre, alors il chante toute la nuit. Quand arrive 5h du matin... Tous les oiseaux du jour se réveillent et se mettent à chanter. C'est la première chose que fait un oiseau en se réveillant, il chante au printemps. Et là, ça l'énerve. Le rossignol, il est hyper énervé à ce moment-là.
Il s'agace vite, ces oiseaux.
Oui, parce qu'avec ses potes, tous ces mecs qui chantent autour de moi, bientôt on ne va plus m'entendre. Donc, il est super agacé. Et là, il redouble d'ardeur. Il redouble de puissance. C'est absolument saisissant, ces moments-là. Alors, j'ai des enregistrements où, par exemple, je commence à enregistrer mon rossignol vers 4h du matin. Il est tout seul. Il fait nuit noire. C'est magnifique, quoi. Et le silence est parfait. Et puis, 5 heures, ça y est, ça commence à se réveiller. Et là, on sent la différence, ça l'agace.
On sent la tension dans la voix.
Après, ouais, sur les oiseaux, bon, j'ai mis l'histoire. Je suis devenu aussi conférencier sur les chants d'oiseaux. Je fais des grandes causeries de 2-3 heures où je raconte la vie des oiseaux, pourquoi ils chantent. Et c'est assez rigolo, d'ailleurs, parce que quand on parle du chant des oiseaux, en extrêmement résumé, on parle de la vie privée des oiseaux, parce que le chant, tout le monde sait ça sans doute, c'est les mâles qui chantent, et uniquement les mâles, et chantent pour séduire les femelles.
Bah tu vois, bon. Je le savais pas. Alors, je pensais que les femelles aussi, elles avaient le droit de chanter.
Non. Elles ont plein d'autres choses à faire.
D'accord.
Le mâle, il fait le beau, alors c'est vraiment de la drague. Hein. Il est très motivé, parce que les femelles sont très réceptives au chant du mâle de leur espèce. Ça leur fait des frissons, elles ont les plumes qui se dressent sur les ailes, ça les met dans un émoi incroyable d'entendre un chanteur. Il y a des espèces où ça donne à la femelle immédiatement envie de s'accoupler avec ce gars-là. Il chante trop bien, il me le faut.
Génial.
Mais voilà,
on doit avoir un petit côté oiseau, les humains aussi, des fois. Hein.
Ouais, il faut se méfier de l'anthropomorphisme avec les oiseaux. Donc il y a des espèces où ça se passe comme ça. Il y a des espèces, plus calmement, ça provoque déjà l'ovulation de la femelle.
Ah oui, ouais, quand même.
Ah bah
déjà.
Oui, c'est des, quand même, rien que d'entendre un chanteur, ça va provoquer des modifications biologiques dans le corps de l'oiseau.
Ah ouais.
En tout cas, la femelle est vraiment attirée et les mâles sont extrêmement motivés.
Du coup.
Mais eux, ce qui les intéresse, en fait, bon, ils veulent une compagne parce que dans la nature, toutes les bêtes se ressemblent en ça qu'il y a un but qui est supérieur à tous les autres. Le plus important de tous, c'est de se reproduire. Tout le reste, c'est secondaire. Donc, ils ont une idée fixe, mâle et femelle, c'est de se reproduire. Chez les oiseaux, en plus, c'est une reproduction saisonnière. Hein, on ne va pas faire les petits en octobre. Hein.
Tout à fait.
Donc, il faut aller vite. On se rencontre en février, on se marie en mars, en avril, on fait les petits, on fait une deuxième nichée en mai, et on se sépare, salut. Mais il ne faut pas perdre de temps, parce qu'il faut que les petits naissent au moment où il y a les petites chenillettes dans les arbres qui vont leur servir de nourriture, comme le biberon d'un bébé. Même les insectivores sont nourris avec des proies animales. Pour leur développement, tous les petits oiseaux, en gros, bouffent des petites chenilles, souvent les chenilles du chêne, qui sont justement des millions dans les chênes. Donc, les parents vont faire le marché, ils nourrissent leurs petits avec ça. Mais donc, mais 15 jours après, il n'y a plus ces chenilles, qui sont déjà devenues des papillons. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Eux, ils savent tout ça, les oiseaux. Et on ne perd pas beaucoup de temps en fiançailles. Hein.
Les préliminaires ne durent pas des heures.
Ouais.
Bien que, puisque c'est des préliminaires sonores.
Ah, mais oui, et puis, bon, il y a une petite cérémonie de mariage aussi chez toutes les espèces quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va sceller l'union entre ces deux-là. En général, c'est une offrande. C'est une petite cérémonie qui se font tous les deux. Hein. Il n'y a pas de témoin. Bon, alors, je résume encore une fois. Admettons, notre mâle, il chante. On abrège, la femelle, elle est très attirée par ce gars. Le gars, il va lui faire visiter son territoire. Celui, il est le gardien d'un territoire. C'est chez lui. Et alors, il montre le territoire. Alors, on verra nos deux oiseaux qui volettent d'un arbre à l'autre. Et le mâle lui explique, tu vois, ici, il y a un buisson épais, on pourra mettre le nid, il sera bien caché. La femelle, elle fait non, 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 elle bouge la tête. Elle dit, bon, si tu veux, on va trouver un autre buisson. Regarde ici, il y a un peu d'eau, il y a un petit ruisseau, tu vois, c'est très pratique. Alors, oui. Tu vois, ici, regarde les arbres fruitiers, là, il y a de la bouffe, ça sera drôlement bien. Et c'est la femelle qui décide, oui ou non, si elle reste avec ce gars-là. Vraiment, c'est elle qui prend cette décision. Le gars, il est prêt à proposer à toutes les filles qui passent. Hein. Mais bon, la première qui s'arrête, c'est la bonne. Et en fait, la femelle choisit en fonction de 4 ou 5 critères qui sont dans l'ordre. La qualité du chant. Il faut que le gars, il chante bien.
D'abord.
Ensuite, il faut que son territoire, il soit bien. Il faut que ce soit bien chez lui,
quand même. Le buisson, l'intérêt de douiller. Voilà.
Je ne sais plus ce qu'il y a ensuite dans l'ordre. En dernier vient l'apparence physique. S'il y a le tempérament de l'oiseau avant. Et les oiseaux, c'est comme les humains.
Ah
il y a
oui.
des rigolos, il y a des sérieux, il y a des tordus, des pas marrants, des grincheux. Il y a toutes sortes de caractères.
Au sein d'une même espèce.
Bien sûr,
excellent.
Bien sûr. Donc, il faut qu'il soit sympa, c'est sûr. et en dernier viendra l'apparence physique, vraiment, on s'en fout, en fait.
Si tu as une plume de travers, chérie,
écoute,
c'est pas grave, je te la remettrai.
Mais en premier, c'est la qualité du chant, parce que c'est fondamental. La femelle est tellement sensible au chant, tellement touchée quand elle entend un bon chanteur. Donc le gars, il attire la femelle, il lui fait visiter son terrain, elle dit oui. Donc là, il y aura la petite cérémonie que je commençais à évoquer tout à l'heure. Le mâle va faire une offrande rituelle à la femelle. Alors moi, je l'ai vu par exemple à la mangeoire devant la maison, c'était assez comique. Je vois arriver un couple de mésanges bleus, c'était la fin de l'hiver, c'était peut-être février, et il restait un bout de margarine dans la mangeoire. Et je vois un de mes deux oiseaux qui arrive. Et le mâle, royalement, il prend une béquée de margarine. Et la femelle ouvre le bec et il lui met la béquée de margarine dans le bec.
Magnifique.
C'est une cérémonie.
Wow.
Et la femelle, à ce moment-là, fait un peu l'andouille. Elle tremblote des ailes, elle fait des cris de bébé.
Ah oui, bah d'un coup, ça doit lui rappeler des souvenirs.
En fait, elle l'a testé pendant un moment, le mâle, avant. Souvent, elle fait un peu comme un bébé. Elle a des attitudes de bébé-oiseau. Pour tester les qualités du mâle à nourrir la nichée.
Est-ce qu'il va être un bon père?
Elle fait exprès l'andouille, elle ne va pas chasser, elle ne va pas bouger, elle ouvre le bec, elle crie. Et le gars, il faut qu'il y aille, qu'il lui ramène à bouffer. Et au bout d'un moment, quand elle a vu que c'est un bon chasseur, elle, bon, d'accord, on va pouvoir se mettre ensemble.
C'est magnifique ce que tu racontes.
Ben ouais, mais c'est passionnant les oiseaux.
Ah ouais, ça a l'air.
C'est vraiment super.
Ça a l'air. Et du coup, en les regardant, alors, tu peux facilement les. Les reconnaître, qui est la femelle, qui est le mâle, par exemple,
ah oui,
chez
souvent,
les mésanges.
Oui, il y a un gros. Le dimorphisme sexuel, ça s'appelle. Vraiment, les mâles sont souvent colorés. Les femelles sont plus ternes de plumage. Parce que c'est elles qui vont couver, donc il faut
qu'elles soient. Même chez les mésanges, ça se voit, ça
Oui, la femelle est moins colorée aussi.
D'accord.
Oui. Il y a des espèces où les deux sexes sont parfaitement identiques, c'est assez rare. le chardonneret, c'est comme ça, le rouge-gorge, c'est comme ça, on ne peut absolument pas différencier le mâle de la femelle.
D'accord.
D'ailleurs, ça fait des soucis pour eux au moment des rencontres.
Ah oui.
Puisque le mâle qui est sur son terrain, il sifflote, il drague.
Et il y en a qui vont bouffer à l'œil en faisant le petit oisillon.
Il voit arriver un rouge-gorge, il déteste les rouges-gorges. Alors, il l'engueule, il lui fonce dessus, il le menace, il fait des tas d'attitudes agressives. Et la femelle, elle a été attirée par le chant de cet asticot-là, qui a mauvais caractère. Et alors, elle lui fait des tas de mimiques, genre pour adoucir l'ambiance, elle baisse un peu la tête. Mais enfin, je suis une femelle. Ah, zut, je m'étais trompé. Alors, mais ils sont marrants, les rouges-gorges. Et je voulais finir tout à l'heure sur le chant. Donc, la femelle, elle est donc extrêmement sensible. Et donc, le mâle, il chante bien, il s'applique beaucoup. Il réussit à séduire la femelle, on est d'accord. Mais tout le monde sait que ce n'est pas le tout de séduire quelqu'un, il faut le conserver.
Mais oui.
Voilà, il faut qu'il reste. Notre mâle, donc, il chante bien. La femelle est avec lui. La femelle est toujours sensible à son chant. Et c'est pas de chance parce qu'il y a un voisin, le mâle il délimite son territoire. Hein. Tous les matins, en chantant, il fait le tour de son territoire, on va dire qu'il fait un petit hectare. Quoi. Et la femelle, elle est très sensible au chant en général des mâles de son espèce. Il se trouve que le voisin chante très bien. Ah, comment faire? Comment gérer ce problème? Elle craque complètement. comme je disais tout à l'heure, elle a les plumes qui se dressent sur les ailes et tout. Bon, ce voisin, il chante trop bien. Alors, soit le voisin passe discrètement dans le terrain où il y a la voisine. Les accouplements chez les oiseaux, ça va très vite. Hein. Ça dure quelques secondes, on va dire. Et hop, le voisin chante bien. Pendant ce temps-là, notre mâle, le légitime, on va dire, lui, il est parti faire le tour du terrain pour délimiter son territoire en chantant. Et top, il tombe sur la voisine, qui craque aussi parce qu'elle aime bien les bons chanteurs. Et tout ça, ça se passe entre 4 et 5 heures du matin, dans la pénombre. Et on avait imaginé à peu près ce qui se passait, quoi. Mais c'est depuis peu, depuis qu'on fait des analyses génétiques, depuis qu'on sait faire ça, qu'on a découvert ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, bon, on sait faire une analyse génétique sur un petit oiseau, c'est rien du tout, on lui prend un microgramme du bout d'une plume et on sait qui sont les géniteurs, quoi.
D'accord.
Et depuis qu'on sait faire ça, on s'est aperçu que dans un nid de pinsons, de mésanges, de merles, il y a la moitié des petits qui ne sont pas les enfants de leur père.
Ah-ha.
Qui sont les enfants des voisins. ou des voyageurs, des vagabonds.
De celui qui chantait trop bien.
Et 50%, c'est quand même beaucoup. Et chacun fait semblant de ne pas le savoir, évidemment. Enfin, je parle du mâle et de la femelle, bon, parce que le mâle est très jaloux, donc s'il croise un mâle sur son territoire, il va le poursuivre, ça va être la bagarre, etc. Mm-hmm. Enfin, pas la bagarre, parce qu'en général, il s'engueule à coups de chant. Hein. Le chant sert à résoudre les conflits.
Ah, ça peut être le duel de tchatch aussi.
Oui, on voit jamais, c'est très rare, les oiseaux qui se battent, entre même espèces. On ne se bat pas, c'est comme ça. C'est à ça que ça sert le chant aussi, à résoudre tous les gros conflits. Hein. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des poètes qui disent « Qu'est-ce que c'est beau, le chant de l'oiseau et tout. » Et moi, je sais à peu près ce qu'ils se disent. Et
c'est que des insultes.
Parfois, c'est des bordées d'injures. C'est « Casse-toi, connard, t'es chez moi, tu dégages immédiatement, etc. » Mais c'est tout sauf de la poésie.
Et alors, on peut reconnaître facilement un chant d'amour, d'un chant d'injures
Avec l'oreille, oui, un petit peu, oui.
Mais pas si facile, apparemment.
Non, parce que c'est toujours le même oiseau et il n'a pas 36 façons de chanter.
Ah.
Alors, je vais finir mon histoire.
Vas-y, pardon.
Parce que c'est une histoire à rallonge, comme je vous ai dit, je fais des causeries de 3 heures. On ne va pas faire 3 heures, mais parce qu'il y a un truc qui fait rire les gens en général. C'est donc le voisin qui est venu séduire subrepticement la femelle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de transmettre ses gènes. C'est pas l'acte. C'est pas l'acte sexuel. On le sait tout simplement parce qu'il y a un petit truc qui se passe. Chez les oiseaux, les accouplements ont lieu, donc je l'ai dit tout à l'heure, à l'aube, en règle générale. Et c'est tous les matins. Au moment où la femelle est féconde, il y a un accouplement par matin, ou plusieurs, pour être sûr que ça marche. Parce que c'est assez acrobatique, le mâle doit monter sur le dos de l'oiseau. Enfin, souvent il tombe, enfin bon, c'est assez rigolo. Mais ça marche quand même, ça marche depuis des millions d'années. Et donc, le mâle arrive, il séduit la femelle du légitime qui est parti faire son tour, et ils vont s'accoupler. Et avant la femelle prend une posture d'invitation au mâle, c'est-à-dire qu'elle se tourne, elle lui tourne le dos et elle soulève sa queue. Ce qui veut dire « vas-y mon gars ». Et le gars, au lieu d'aller directement s'accoupler avec cette femelle, il va lui donner des petits coups de bec autour du cloaque. Le cloaque, c'est l'organe sexuel hein, de la femelle. Et il va lui donner des petits coups de bec, parce que lui, il sait qu'elle vient de s'accoupler avec son mâle légitime. Ces petits coups de bec vont provoquer l'expulsion de la gouttelette de sperme du mâle qui vient de s'accoupler avec sa légitime. Pic, 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 chpouitch.
D'accord.
Et à ce moment-là, le gars, il va dire, je peux y aller.
C'est moi, voilà. D'abord.
Et donc, c'est comme ça qu'on sait que, bon, c'est pas l'acte qui intéresse l'oiseau, c'est son résultat. Le gars, il veut être le géniteur des petits. Ouais, c'est assez fascinant, je trouve. Hein.
Tout à fait. Quelles histoires passionnantes sur ces animaux. Et alors, bah oui, pas que les oiseaux, hein, comme on disait, t'es allé enregistrer les sons des sangliers.
Oui, bien sûr. Bah après, comme je disais tout à l'heure.
Le brame du cerf.
Bon, bah évidemment, les grands classiques. On court après tout ce qui fait du bruit, les renards, les grenouilles, les criquets, les insectes, n'importe quoi.
Mais ça doit donner lieu à des sacrées anecdotes quand même.
Ouais, ouais.
Partir à chasse aux renards en pleine nuit avec tout ton matos d'enregistrement.
Non, c'est passionnant, tout le monde veut venir avec moi en fait.
Et d'ailleurs, tu emmènes beaucoup de gens?
Non, j'emmène personne.
Pas pour les
prises
de son.
Quand je fais de la prise de son, j'emmène personne parce que bon, c'est comme pour la photo, il y a quelques règles pour réussir. C'est un, ne faire aucun bruit, mais alors aucun. Hein. Donc il faut même mettre des habits qui ne font pas de bruit quand on bouge. Il y a plein de vestes. Il faut mettre des habits qui ne font pas de bruit, où il n'y a aucune couleur, même pas une petite médaille rouge, une marque, rien. Il faut être habillé en marron, en vert, en noir. Il faut faire aucun bruit, mais alors aucun bruit, parce que...
Donc tu te planques ?
Ben, y a deux écoles. Sur le bruit, je termine, on imagine que les oiseaux, enfin on imagine, on est à peu près sûr même, qu'ils ont une acuité auditive qu'on imagine 10 fois supérieure à la nôtre. Mmh. Et 10 fois supérieure, c'est même dur à comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait craquer une petite brindille sous la chaussure ou qu'on bute dans un caillou, c'est comme un arbre qui tombe dans la forêt pour les oiseaux. Donc y a plus personne. Et pour la prise de son, il faut être seul. Ouais, c'est le mieux. Ou alors deux, mais vraiment deux qui savent... Enfin, il faut que le deuxième, il connaisse tout ça, quoi. Il connaisse tous ces trucs. Puis après, il y a des techniques d'approche.
Donc ouais, à ce moment-là, il ne reste que la planque. T'es déjà sur place et t'attends qu'ils arrivent.
Ouais, non, il y a deux écoles. Il y a l'affût et la balade. L'affût, si on reste immobile, alors l'important, c'est l'immobilité aussi. Parce que les oiseaux, ils voient le mouvement. Très bien. Nous aussi, d'ailleurs, si on regarde un paysage, et s'il y a un tout petit truc qui bouge, on l'aura vu. Mm-hmm. C'est quelque chose dans le fond de la rétine qui détecte les mouvements. Et alors, il ne faut surtout pas bouger. Même pour toucher l'enregistreur, il faut bouger très lentement, appuyer très lentement sur le petit bouton. Et ouais. Et non, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se planquent. Alors, il faut se mettre, par exemple, le dos à un arbre. Comme ça,
on est calé.
On est calé, on est bien. Et puis, surtout, on n'a pas de silhouette.
Ah, aussi.
Ben oui. Ouais. Et puis il faut planquer le matos, parce qu'on a j'ai une grosse parabole en plastique qui peut briller, donc on met un bas dessus, on met un tissu, enfin bon, il faut qu'il n'y ait rien à voir. Et puis l'autre école, c'est petite balade, je m'arrête 5-10 minutes, je repars, je m'arrête, et des fois je fais 20 mètres, hein. C'est vraiment pas de la marche à pied. Hein. Et puis après c'est un mix des deux, quoi. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on reste immobile, les oiseaux reviennent et... Ils t'ont oublié, quoi. C'est fini. Si tu fais pas de bruit, si tu bouges pas, c'est bon, quoi. Mais c'est... De toute façon, les deux sont passionnants. La balade, c'est bien aussi. Puis des fois, on entend l'oiseau au loin, donc il faut aller le chercher quand même. Il va pas venir tout seul, hein. Donc, il faut y aller, quoi.
Alors là, j'ai sous les yeux la collection des disques que tu as fait. Il y a aussi des disques qui sont consacrés à des départements.
Oui, c'était une idée... j'habitais la Drôme, j'ai fait le disque de la Drôme.
Concert naturel de la Drôme, concert naturel de l'Isère, concert naturel l'Ardèche. De l'Ardèche.
C'est là où j'ai habité, chaque fois que j'habite quelque part, je fais le disque. c'est très simple, ça. Dans chaque disque, il y a 12 belles prises de son, dans 12 coins connus, si on veut, du nord au sud de l'Ardèche. Ça va d'Annonay au Vence, en passant par la montagne, etc.
Sympa.
Pour entendre la différence entre... Au nord de l'Ardèche, on est presque à Lyon, hein, et au sud, on est au Gard, qu'on est dans le Gard. Donc, il y a beaucoup de différences. Et c'est des disques qui m'ont lancé, je dirais, qui ont eu du succès d'entrée de jeu.
Et alors là, en ce moment, le grand succès, c'est les livres pour enfants, donc les livres audio.
Ouais, les disques, oui.
Les disques.
Pour moi, c'est un disque avec un
c'est
livre.
C'est un disque avec
parce
un
que
livre.
Mon boulot, c'est le son, donc moi, je travaille le disque, hein, c'est sûr.
Ouais. Donc, t'as quand même aussi un super illustrateur qui vous fait les...
Alexis Noya.
Qui fait des super illustrations très rigolotes, très sympas. Je vais citer les titres. Donc, c'est Un jour à la ferme. Ça, c'est pour les plus petits à partir de 18 mois.
Ouais.
Donc, c'est accompagné de comptines.
Il y a 12 chansons à chaque fois.
Voilà, et donc les bruits des animaux, bien sûr.
Ah bah évidemment.
Bien évidemment. Ensuite, pour les un petit peu plus grands, c'est Un jour dans la forêt. Pareil, là, des dessins hilarants.
Oui, mais il est
les
formidable.
Les animaux, ils sont très drôles.
Et en résumé, là, c'est l'histoire d'un petit chien, il s'appelle Titou. Titou s'est perdu dans la forêt. Forcément qu'il va rencontrer tous les animaux de la forêt. Sinon, quel serait l'intérêt de se perdre en forêt ?
Évidemment.
Donc, il va rencontrer tous les animaux qui vont essayer de le dépanner, de lui trouver quelque chose à manger. Il est très embêté parce qu'il n'y a pas de croquettes dans la forêt. C'est vrai. Et donc, il cherche quelque chose à manger. Bon, puis, par exemple, le blaireau, il mange des vers de terre, le blaireau en vrai. Donc, il lui sort un gros lombric. Il regarde, c'est plein de protéines. C'est dégoûtant. Enfin bref, il aime bien la forêt, mais il ne trouve pas vraiment ce qu'il lui faut. Il y a plein de péripéties, et à la fin, les animaux de la forêt vont l'aider à retrouver le chemin du village.
Ah, c'est quand même mieux pour le chien, chacun chez soi.
C'est quand même un urbain, ce chien, ce Titou.
Et le troisième, Un jour au jardin.
Un jour au jardin, ouais, c'est une histoire autour du monde des insectes et des petites bêtes des jardins.
Alors, t'as spécial appris rigolo. Du son, là, aussi, ouais.
Enfin, criquet, voilà, pour les auditeurs, je dirais, regarde la tronche des crapauds.
Ils sont énormes.
Voilà, c'est spécial rigolo. Et depuis 10 ans, bon, j'ai toujours plus ou moins écrit des chansons. Et fait de la musique, quoi. Et maintenant, je me mets la barre à 12 chansons par disque. Mm-hmm. Dans chaque disque, il y a une histoire jouée par des comédiens. Ça aussi, c'est assez unique. C'est-à-dire qu'on fait bosser beaucoup de comédiens. On travaille à la façon Radio France. Il faut reconnaître que je viens de là. Donc on appelait ça des dramatiques, des bons comédiens, du bruitage, de l'action, très peu de narration. On rentre là-dedans comme dans un film sonore, où on pourrait dire que c'est un film qu'on regarde les yeux fermés, et on fait bosser dans la forêt, il y a 14 comédiens.
Ah ouais.
Une grosse équipe, hein, adultes, professionnels et enfants, parce que des fois il faut des enfants. Et donc c'est un gros boulot, prise de son, déjà inventer l'histoire, la scénariser, faire jouer les comédiens, les faire travailler, répéter, faire la réalisation de tout ça, nickel. C'est un gros boulot. Donc après cette histoire, du coup, le fait que ce soit des comédiens qui jouent, ça la rend particulièrement attrayante, l'histoire.
Et ouais.
Quelqu'un qui raconte une histoire, même si elle est bonne, bon, c'est un peu embêtant au bout d'un moment.
Mm-hmm.
Alors que quand on est pris par le jeu des comédiens, puis quand ça court, le comédien, il court en vrai. Hein, et je le veux essouffler. Et j'ai enregistré ces godasses en comprenant qui court. Il court. Point. Et on a bien compris qui court. Et donc ça, c'est passionnant. Ensuite, maintenant, je fais les chansons 12 par 12. C'est un bon chiffre, 12, hein, comme les œufs, les huîtres, les chansons chez moi, les mois de l'année. 12 chansons à chaque fois, c'est un bon truc. Ça participe beaucoup du succès de ces disques. Ensuite, il y a plein de sons, les sons des animaux de la ferme, de la forêt, des jardins. Il y a un jeu. Enfin bon, on fait des disques hyper remplis de 70-75 minutes. Vraiment, on y met tout. Et encore, souvent, j'ai pas assez de place.
Et beaucoup d'humour.
Ah, bah oui.
Et de l'humour.
Si on s'amuse pas avec les petits enfants, c'est pas la peine. Hein. Donc, faut des trucs super rigolos. La ferme, c'est pour les tout petits. C'est une poulette. Alors, c'est une mère poule, elle s'appelle Poulette. Elle a 10 poussins. Elle est très fière de ses 10 jolis poussins. Et elle va les sortir du poulailler pour la première fois. Alors, c'est un grand jour. Hein. Et elle va montrer ses poussins à tous ses copains, les autres animaux de la ferme. Et c'est pas de chance parce qu'elle a un poussin qui fait que des bêtises. Mais il fait tout ce qu'il peut comme bêtises. C'est Piou, il s'appelle Piou ce bandit. Bon alors, il y a un petit poussin qui met de l'ambiance. Les petits enfants, ils adorent ce petit poussin. Piou, c'est devenu un copain, comme Titou dans la forêt. Et le dernier, c'est l'histoire d'un petit gars, Tino, il s'appelle. Et Tino est en vacances chez ses grands-parents, Mamie Framboise et Papy Jo.
Oh, donc ça, c'est dans Un jour au jardin.
Ouais, et ils habitent dans une petite ferme, dans la campagne. Et notre Tino, il est là, et bon, il va rencontrer une mouche. Alors, l'histoire est vraiment un peu farfelue, là, en fait. Il rencontre une mouche. C'est une mouche qui existe vraiment, ça s'appelle une taquinaire. C'est une mouche jaune avec une... Bon, je suis un naturaliste, évidemment. Hein. Donc, une taquinaire. Mouche jaune avec une bande noire sur le dos. C'est extrêmement collant comme mouche. En été, on peut l'attraper, cette mouche, en vrai. Hein. Si on la prend, elle monte sur le doigt, et puis elle reste. On peut la faire sauter dans un petit cerceau qu'on ferait avec un brin d'herbe, par exemple. Elle saute, elle revient. On peut la prendre entre ses mains... On peut la mettre sur son nez, ça fait toujours rire. Mais c'est une mouche, en fait, elle est collante parce qu'elle doit, pomper notre transpiration. Hein, enfin, elle trouve à bouffer sur une main même propre. Quoi. Et donc, un jour, je rencontre une mouche comme ça. Et j'avais une amie qui passe avec sa petite môme de 2 ans, je crois. Et je lui dis, regarde, j'ai une mouche apprivoisée. Alors la môme, elle était vraiment scotchée. Regarde, je vais la faire sauter à travers un petit cerceau. « Oh, dis donc, Pierre, il a apprivoisé une mouche. Oh, c'est vraiment super. » Et non, l'histoire a tourné dans ma tête. Et c'est devenu une vraie histoire, donc, d'un petit gars qui apprivoise une mouche, qui s'appelle Moumouche. qui est aussi la vedette de l'histoire. Et bon, je ne vous raconte pas l'histoire du tout, mais notre petit gars qui s'appelle Tino va se réveiller aussi petit qu'un insecte perdu dans le jardin de ses grands-parents. Mm-hmm. Et c'est le début de l'histoire, il y a des moments un peu rudes, ouais. Parce qu'il tombe dans une toile d'araignée à un moment. Mais bon,
on va jouer à se faire peur.
Une bonne histoire, ouais. Il ne faut pas qu'elle soit linéaire. Hein.
Ah bah non, il faut du suspense, la trouille, un peu de frisson et tout.
Après il y a la détente, après ça va mieux, puis après on a peur encore, et puis finalement il va s'en sortir. Bon, puis 12 nouvelles chansons sur... les insectes, les petites bestioles, les crapauds, la taupe, le ver de terre. J'aime bien le chat et l'oiseau. Voilà.
Et puis, il y en a un dernier dont on n'a pas parlé, c'est le génie de l'île. Et ça, là, ça se passe au Sénégal. Oui. Donc, tu t'es régalé avec plein d'amis sénégalais sur l'île de Gorée. Et là, c'est une histoire de voyage. Ouais,
comme j'ai toujours été assez occupé, j'ai fait pas mal de voyages, en particulier au Sénégal. Au départ, c'était un motif humanitaire, je ne raconte pas. Enfin, j'allais installer des dispensaires, des puits, des machins. Mm-hmm. C'était bien, ça m'a pris quelques années. Et du coup, je me suis fait plein de copains au Sénégal, forcément, hein, parce que j'étais pas un tout bab ordinaire, j'étais un gars qui vient donner la main. Je suis même le fils du chef d'un village.
Ah, quand même.
Ah ouais, j'ai un père africain là-bas. Ça, j'ai appris ça, c'est beau quand même qu'on invente les familles au Sénégal. Mmh. Le chef, il m'a dit, écoute, on t'aime bien, tous, si tu veux, tu peux être mon fils. J'ai dit oui. Ouais. Alors du coup, j'avais plein de frères et sœurs, hein. D'un coup. Ah ouais, beaucoup de frères et sœurs là-bas. Enfin bon, c'était passionnant tout ça. Et puis entre autres, pour se détendre, et puis pour visiter, j'étais allé sur l'île de Gorée, que beaucoup de gens connaissent, en face Dakar. Puis là, j'avais plein de copains aussi. Et puis comme je suis musicien, j'aimais bien les musiciens là-bas. Enfin, je traînais par là, avant de reprendre l'avion. Gorée, c'est devant Dakar, quoi. Et j'ai eu l'idée de faire une histoire là-bas, et donc j'ai fait bosser tous les copains sénégalais. Il y a que des Sénégalais qui ont joué, comédiens sénégalais, musiciens sénégalais. Tout est enregistré sur place, et il y a tous les sons de l'île de Gorée.
Wow.
Et l'histoire, en résumé, c'est notre petit Tino, là, notre petit héros, le petit blanc.
Ouais.
Ouais, il est en vacances à Noël là-bas, c'est la saison où il fait bon, au Sénégal. Et il va chercher à voir le génie qui protège l'île de Gorée. Parce que l'île de Gorée est protégée par un génie. C'est très important. Mmh. Et c'est très intéressant. Donc lui, il veut voir ce génie. Et c'est le début de l'histoire, en fait. Il va faire les 400 coups, le tour de l'île, pour trouver le génie. Il va presque le voir. C'est dur à voir, un génie.
Bah, en tout cas, là, moi, j'en ai rencontré un super sympa de génie aujourd'hui. Là, j'étais contente de faire un tour dans ton histoire, dans ton parcours. Avant qu'on se quitte, parce que c'est bientôt la fin, j'avais envie de te poser une petite question sur toi qui aimes tant la nature. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui te tiendrait à cœur, une prise de conscience, un petit effort, un petit truc, je ne sais pas, ou un
moi,
rêve
je reste, Non, je resterai général. Il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour protéger la nature. Tout. Avant tout. Mais avant tout le reste. Hein. Avant l'économie, il y a l'environnement. Mmh. Voilà, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour protéger tout. Alors, si on est branché oiseau, on s'aperçoit, évidemment, je suis dans 50 assos de protection de l'environnement. À la LPO, par exemple, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, on s'occupe des oiseaux. Mais quand on s'occupe des oiseaux, on s'occupe de tout, parce que si on veut aider les oiseaux, il faut qu'ils aient des biotopes agréables pour vivre.
Bien sûr.
Donc il faut sauver la forêt, il faut sauver les mares, les zones humides, il faut que les agriculteurs soient propres.
Il faut que les insectes soient en vie,
voilà,
etc.
Alors, rien que s'intéresser aux oiseaux, ça veut dire s'occuper de tout l'environnement. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais il faut que chacun fasse tout ce qu'il peut pour être positif par rapport à la nature et à l'environnement. Alors après, chacun son chemin. Si on ne sait pas trop quoi faire, on peut aussi adhérer à des assos, c'est-à-dire financer, pour parler crûment, quoi, filer des ronds à des gens qui font les choses. Au début, j'ai commencé à adhérer à Greenpeace il y a 35 ou 40 ans de ça. Et je trouvais que c'était vachement bien de filer des sous à des gens qui font des trucs que je n'ai pas le courage de faire. D'aller grimper en haut d'une cheminée d'usine avec un drapeau, une banderole, moi, ça me foutrait la trouille. Mais je trouve que payer le harnais du gars, c'est intéressant. Voilà, on peut toujours financer avec ses moyens, même on n'est pas obligé de donner beaucoup.
Ouais, tout à fait. Et puis pour se sentir peut-être plus partie intégrante de cette nature et avoir envie de la défendre comme on aurait envie de se protéger soi-même, ben on peut aussi commencer par écouter un petit peu tous ces chants d'oiseaux et de les découvrir. Parce que, comme tu disais, il faut se méfier de l'anthropomorphisme avec les oiseaux. Oui. Mais là, en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'ils sont bien plus proches de nous que ce qu'on pourrait croire.
Ben oui.
Et voire nous de eux. Donc, ben, du coup, voilà, toujours les méthodes, l'ABC des chants d'oiseaux au studio des Trois Becs. On va sur ton site internet pour commander Studio Les Trois Becs. Merci beaucoup, Pierre Falinga.